Bienvenue dans Hacker News Daily sur Brie Radio, je suis Claire Martin.
Et moi Nicolas Moreau. Au programme aujourd'hui, l'incident chez Hugging Face et la route à suivre, le nouveau modèle GLM 5.3 Flash, mais aussi la réflexion de Bill Gates sur une ère de l'IA turbulente.
Sans oublier le contrôle américain des exportations et le rachat d'Actinid, premier producteur d'uranium faiblement enrichi à haute teneur, pour ne citer que quelques sujets. OpenAI a publié une analyse de l'incident de Hugging Face. Et le détail qui frappe d'abord, c'est la division du travail entre les agents. Certains cherchaient des exploits possibles, d'autres des identifiants, d'autres encore se concentraient sur la communication et la coordination. Les agents proposaient leur expertise en échange d'aide ailleurs et laissaient des requêtes pour des pairs mieux placés.
Ce qui est remarquable dans la démarche d'OpenAI, c'est qu'elle ne s'arrête pas à la description de l'incident. Le billet s'intitule « The Hugging Face Incident and the Road Ahead », la route à venir, ce qui indique une volonté de tirer les leçons et de définir la suite pour ce type de scénario d'agent autonome.
Un nouveau modèle de chez Z.i attire l'attention sur Hacker News, le GLM 5.3 Flash, et la tarification standard par million de jetons est détaillée dans la discussion. 15 centimes en entrée, 50 centimes en sortie et 3 centimes pour l'entrée en cash. Autrement dit, l'entrée en cash revient 5 fois moins cher que l'entrée standard.
Dans la même discussion, un commentateur relie cette sortie à un autre fil, déjà très commenté, avec 281 points et 118 commentaires, ce qui montre que la famille Flash, justement, alimente un vrai débat dans la communauté technique. Bill Gates a publié sur Gates Notes un article intitulé « The Turbulent AI Era is Here », et dans la discussion, un commentateur, Madias, retient une proposition précise. Gates estime qu'il faudrait taxer les jetons IA et les robots. Cette phrase suffit à le convaincre, dit-il.
Un autre commentateur, Material, voit dans tout ce débat un mélange de croyances quasi-religieuses et d'opportunisme. Selon lui, pour Dario et Sam, la solution consisterait à obtenir un monopole sur la technologie, et pour Gates, une organisation supranationale avec des pouvoirs de taxation et de régulation sans précédent, une sorte de police mondiale de l'IA qui serait vraisemblablement dirigée par des technocrates comme lui. Il demande si ces idées valent la peine d'être poursuivies et quels compromis ou dérives elles pourraient comporter. Un troisième commentateur, Mighty C, affirme que Gates et Nadella n'avaient rien dit jusqu'à cette année, après avoir, selon lui, perdu tout espoir de construire un fossé autour de l'IA. Même que répond que Gates avait d'autres distractions à gérer, pendant que Gherkin trouve tout cela vraiment bizarre et espère qu'on pourra donner un sens à cette frénésie, peut-être comparée un jour aux danses frénétiques du Moyen-Âge. Glenn répond que ce n'est peut-être pas qu'une mode et qu'on pourrait se demander ce qu'on aurait pu faire différemment en voyant clairement ce qui se passait. Enfin, Degelo prédit que l'IA sera vue comme la frénésie des crypto-monnaies.
Un article daté du 4 août 2026, signé Srenath M. Menon, présente WebMCP, un standard web proposé pour que les sites déclarent des outils structurés que les agents IA peuvent découvrir et appeler directement. L'article oppose cela au fonctionnement actuel, où les agents lisent le DOM, devinent quel élément est le sélecteur de date, simulent des clics et des relectures, puis cassent dès que la mise en page change. Avec WebMCP, la page enregistre un outil comme réserver une table, l'agent lit son schéma, l'appelle avec des arguments structurés, et le vrai JavaScript de la page exécute l'action dans l'onglet déjà ouvert et connecté. L'outil reste le contrat stable, même si la mise en page change.
WebMCP est développé conjointement par Google Chrome et Microsoft Edge au sein du W3C Web Machine Learning Community Group. Côté maturité, c'est réel et exécutable mais précoce, disponible comme Origin Trial à partir de Chrome 149 et activable localement avec le drapeau Chrome 2.flags. Ces trois composantes sont la découverte des outils proposés, des schémas d'entrée et sortie en JSON schéma et un état partagé de ce qui est présent sur la page. L'article compare aussi à MCP, décrit comme le port qui a permis à l'IA de toucher le monde, transposé dans le navigateur. Dans son billet, Tuxi Andaska attaque une idée très répandue. Demander simplement à une IA de corriger un bug, puis corriger l'erreur suivante. Ne construis pas la compétence. Cela entretient ce qu'il appelle l'illusion de compétence, où l'on croit apprendre alors qu'on ne fait qu'observer la machine.
Zingar, dans la discussion Hacker News, concède le point central, mais apporte une nuance de procédure. Cette façon de piloter l'IA pourrait développer une compétence qui a sa valeur, savoir comment amener l'IA à produire de bons résultats.
C'est une distinction réelle. L'enjeu est moins le code corrigé que la capacité à formuler, diriger et vérifier ce que produit l'IA. Le biais laisse la question ouverte. Ces deux apprentissages peuvent-ils coexister? Ou la pratique de l'ASIM finit-elle toujours par masquer ce qu'on ne maîtrise pas soi-même? L'entreprise américaine Actinid affirme être la première start-up au monde à avoir enrichi de l'uranium naturel pour produire du HALEU, l'uranium faiblement enrichi à haute teneur dont les réacteurs nucléaires commerciaux les plus récents ont besoin.
Ce qui frappe vite, c'est l'échelle. JR Rancher résume le choc dans la discussion. Quelques centaines de milliers de dollars d'équipement remplacent ce qui représentait, autrefois, un investissement industriel massif. Il ajoute une inquiétude. On imaginait que l'enrichissement de l'uranium restait réservé à des pays dotés d'armes nucléaires, qui déployaient des efforts extrêmes pour le garder inaccessible.
La frontière reste donc ouverte entre l'espoir d'une relance de l'énergie nucléaire et la crainte qu'une technologie devenue abordable se diffuse au-delà de ce qu'on maîtrisait jusqu'ici. Le 26 août 2026, Duck Labs a annoncé rejoindre AWS avec un effet attendu début septembre. L'équipe reste à Amsterdam et continue sur DuckDB, DuckLake, Quack et la communauté. Les composants open source du DuckStack restent gratuits sous licence MIT, avec la fondation DuckDB à but non lucratif qui conserve son rôle de tutelle.
Pour situer l'ampleur, Duck Labs est une entreprise bootstrappée, fondée il y a un peu plus de 5 ans et détenue par ses fondateurs et son équipe, avec plus de 30 personnes à Amsterdam. DuckDB dépasse plus d'un million de téléchargements par jour. Les deux entités travaillaient déjà ensemble depuis plus d'un an, et AWS s'est engagé à soutenir à long terme DuckDB et sa communauté. Mark Rasvelt et Hannes Mühleisen, les auteurs de l'annonce, estiment que la révolution DuckDB peut encore croître de plusieurs ordres de grandeur. Et Andy Warfield, distinguished engineer et vice-président d'AWS, décrit l'équipe comme l'une des plus profondes techniquement, humble et rapide qu'il ait connue.
Dans la discussion, les réactions oscillent entre surprise et désenchantement. Tosh dit ne pas s'y attendre et espère un avenir radieux pour DuckDB. Data Ottawa, lui, pensait à une acquisition par MotherDuck, qu'il croyait même déjà avoir eu lieu. Adsub Muldiv lâche qu'on ne peut simplement pas avoir de belles choses. Graham.io répond qu'acheter de belles choses ne doit pas être sous-estimé. Et Jodel compare la situation à la liberté de la presse, réservée à ceux qui possèdent la presse. Systems ajoute une note plus mesurée, le projet reste open source et donc forkable, mais il faudrait un vrai nous très spécial pour porter une telle alternative, ce qui laisse ouverte la question de la gouvernance sous le toit d'AWS.
À FOSI 2026, plusieurs membres de la Software Freedom Conservancy, qui organise la conférence, ont présenté une violation en cours de l'Affaire General Public License version 3, concernant le logiciel d'imprimante 3D de Bamboo Lab. Bradley Kuhn, Karen Sandler et Denver Gingerich ont abordé différents aspects. Selon l'article de Jake Edge, le contournement employé par l'entreprise est précisément ce que l'AGPL a été écrite pour empêcher.
Le contexte se précise. Le slicer Slicker créé par Alessandro Ranelucci a été placé sous AGPL V3 pour éviter un Slicker as a service. Il existe environ 18 forks actifs, dont le plus connu est Prusa Slicer. Joseph Prusa a bâti son entreprise sur le logiciel libre. Bamboo Lab, entreprise chinoise, est soupçonnée de liens avec le gouvernement chinois, sans confirmation.
Dans la discussion, la question juridique domine. Logan Dark demande s'il est possible de poursuivre une entreprise basée en Chine depuis les États-Unis, la seule issue étant peut-être d'interdire l'importation ou la vente. Nekusar répond qu'on peut les bloquer ou leur payer le maximum statutaire de 120 000 $ par copie violée, ce que Logan Dark qualifie de vœu pieux. D'autres voix surgissent. Paul Skidjé suggère de poursuivre Amazon pour obtenir la liste des acheteurs de bambou, ce qui indigne Chickeness, qui voit une attaque contre les acheteurs. Tyler Getzey estime que l'entreprise possède vraisemblablement des actifs aux États-Unis. Spot juge une interdiction d'importation et de vente aux États-Unis digne d'intérêt. La voie réelle praticable face à un contrevenant hors de portée des tribunaux américains reste donc ouverte.
Un site nommé Is GitHub Cooked a attiré l'attention sur Hacker News, où un commentateur a cru lire GitHub Outrage Tracker, un suivi des indisponibilités, ce qui a relancé l'ancienne blague d'un tracker dans l'esprit de ces sites qui vérifient si la Californie est en feu. Le lien de ce tracker a d'ailleurs été fourni dans la discussion, aux côtés d'un autre site du même genre, dayswithoutgithubincident.com, qui compte les jours sans incident sur GitHub. Un commentateur a souligné une pointe d'humour involontaire. Le certificat de ce site a expiré il y a plus de 100 jours, un comble pour un site censé suivre les pannes. Dans un fil séparé, une nouvelle disruption touchait certains services GitHub, résumé par quelqu'un comme « ça doit être un jour qui finit par Y ».
Le département du Trésor américain, par l'intermédiaire de son Office of Foreign Assets Control, l'OFAC, a sanctionné Autistici Inventati, une entité italienne que le Trésor décrit comme fournissant une architecture numérique et des outils spécialisés. Le communiqué officiel présente cela comme une action contre des réseaux terroristes violents d'extrême gauche.
Sur Hacker News, une grande partie de la discussion tourne autour du mot « Antifa ». Un commentateur avait entendu dire qu'Antifa n'existait pas. La réponse nuance, ce qu'on disait, c'est qu'il n'existe pas de groupe centralisé et organisé appelé Antifa, que c'est une approche idéologique de lutte contre le fascisme, pas une organisation terroriste, et que qualifier Antifa d'organisation terroriste, servait d'excuse pour sanctionner quiconque l'administration n'aime pas.
Un autre intervenant renchérit sur le point de langage. Le slogan répété par plusieurs politiciens était « Antifa est un mythe » et rappelle qu'un groupe lâchement organisé n'est pas protégé par ce statut vis-à-vis de ses actes. Et pour un autre commentateur, toute personne qui gère des services web critiques envers ceux qui contrôlent le gouvernement américain devrait être extrêmement inquiète, puisqu'il y voit une perversion de la justice. Reuters rapportait le 26 août un accord entre Meta et des États américains sur les préjudices causés aux enfants par les réseaux sociaux, pour un montant annoncé d'environ 17 milliards de dollars. Dans le détail, cité du New York Times, le paiement initial serait d'environ 12 milliards, qui passerait à 17,1 milliards si Snap, TikTok et YouTube concluent aussi des accords avec les États, avec des pénalités financières et des changements de produits en jeu. Mais tant que cette condition-là n'est pas remplie, le total final reste incertain.
L'accord contraindrait Meta à des changements majeurs pour tous les utilisateurs américains. Interruption du défilement infini, limite quotidienne de 2 heures sur Instagram et Facebook, restriction d'usage la nuit, notification silencieuse, limitation des filtres de beauté et du comptage de clics sur j'aime, renforcement de la vérification de l'âge et des contrôles parentaux. Le Wall Street Journal, cité ailleurs, évoque une limite par défaut de 2 heures pour les moins de 18 ans. Et un commentateur s'interroge sur l'application effective de ces limites et sur leur partage entre services.
Côté marché, un commentateur relevait une hausse de l'action Meta de 4,4% en pré-marché. Un autre observe que la hausse a été de courte durée, l'action étant revenue sur ses gains par la suite. Un article sur Taylor Farms, repris sur Hacker News, s'intitule « Comment l'empreinte d'une seule entreprise est devenue un risque national » et pointe vers un rapport publié sur le site de la campagne sur Taylor Farms. Un commentateur y voit des aspects admirables dans la capacité à fournir un produit constant à ses clients, mais à un coût sérieux, et juge qu'avec des réglementations qui s'érodent continuellement, la situation ne fera qu'empirer. Son évaluation de fauteuil, le meilleur moyen de résister est de faire en sorte que les fermiers se regroupent en coopérative et trouvent un juste milieu entre l'efficacité de l'échelle industrielle et d'autres considérations, ce raisonnement restant centré sur cette voie de coopération. Dans un article publié le 26 août 2026, l'organisation humanitarienne OpenStreetMap raconte comment son application COMAPS a servi lors de la réponse au tremblement de terre au Venezuela. Dès le deuxième jour après le séisme, le cofondateur Anton Wenemoser est entré dans la zone la plus touchée, sans couverture cellulaire, l'application déjà installée sur son téléphone. Il avait d'abord aidé à Caracas, puis il a rejoint comme bénévole une équipe de secours venue du Salvador, des pompiers et la protection civile notamment, qui opérait à distance, sur instruction d'un centre de commandement resté dans son pays. La plupart des membres ne connaissaient pas COMAPS, et une seule personne guidait le reste avec une application de navigation beaucoup plus limitée, sans la richesse des données communautaires ni le fonctionnement hors ligne. Quand Anton l'a montré au coordinateur cartographique de l'équipe, celui-ci a trouvé cela, selon l'article, une découverte qu'il a adoré faire. L'application repose sur les données OpenStreetMap, qualifiées de quelque chose comme Wikipédia, et elle est non commerciale et open source, conçue pour fonctionner 100% hors ligne une fois la carte d'une région téléchargée en s'appuyant uniquement sur le GPS du téléphone.
Mais pendant la première année, mettre les cartes à jour prenait des jours, car le traitement des données OpenStreetMap exigeait un serveur puissant, et chaque mise à jour dépendait d'une mise à jour de l'application soumise au processus de revue des magasins d'applications. Ce n'est que quelques années plus tard que ce fonctionnement a changé. La FDA américaine a approuvé une première thérapie ciblée de sa classe pour le cancer du pancréas métastatique, une étape inédite que l'agence elle-même présente. Sur Hacker News, la discussion autour de l'annonce a pris un tour très personnel. Un commentateur raconte que son père est décédé du cancer du pancréas en 2020. Il avait consulté le médecin plusieurs fois pour des problèmes et on ne faisait que le renvoyer chez lui avec des laxatifs. La situation s'est finalement assez aggravée pour que sa mère l'emmène aux urgences, où le cancer a été découvert. C'est un témoignage qui rappelle à quel point ce cancer est souvent décelé tardivement, à l'opposé de l'espoir que représente cette première thérapie ciblée dans cette indication.
En Turquie, une sculpture vieille de 11 000 ans, représentant un homme chevauchant un léopard, a été découverte. Et l'annonce qui circule sur Hacker News a vite orienté la discussion vers une autre œuvre du même site archéologique. À moins de 20 km de Karahan Tepe, on a en effet exhumé un haut-relief d'un homme saisissant son phallus, encadré par 2 léopards qui grognent ou mordent.
Les archéologues présentent cette scène comme la plus ancienne scène narrative jamais découverte, mais dans le fil, quelqu'un pose la question ouverte. Au juste, quelle narration cette scène raconte-t-elle ? C'est une bonne illustration de tout ce qu'on ignore encore sur ce que ces sociétés du néolithique cherchaient à exprimer. Nous avons donc fait le tour de l'incident Hugging Face, où des agents maîtrisés se sont mis à chercher des identifiants en se répartissant le travail, et de la course effrénée des modèles flash chinois avec GLM 5.3 flash, Quen 3.8 flash next et le dévoilement d'Ox Alpha.
Deux sujets bien différents, mais tous deux illustrent à quel point ce domaine évolue vite. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.